Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
La situation épidémique et sanitaire en Île-de-France nous préoccupe tout particulièrement. Toutes les 12 minutes, un francilien est admis en lit de réanimation en Île-de-France.
La situation en région parisienne se dégrade à vitesse grand V. À ce rythme, les services de réanimation franciliens seront totalement saturés d'ici la fin du mois. Et des dizaines, voire des centaines de malades vont être transférés vers d'autres régions, annonce Olivier Véran. Le ministre de la Santé qui se veut rassurant concernant le vaccin AstraZeneca. Il n'y a pas lieu de suspendre les injections. Réaction à la décision de trois pays du nord de l'Europe de mettre en pause les vaccinations après plusieurs cas de caillots sanguins. Et de quatre vaccins sont désormais autorisés en Europe. Feu vert pour le Johnson & Johnson qui présente un énorme avantage. Il ne nécessite qu'une seule injection. Ce n'est pas encore un passeport vaccinal, mais ça pourrait un jour le devenir. Air France expérimente un pass sanitaire, une application où l'on télécharge son test négatif avant d'embarquer. Objectif, préparer la reprise du trafic aérien. Dans ce journal également, les régionales dans les Hauts-de-France. Et cette première, toute la gauche partira unie dès le premier tour. Des policiers mis en examen pour avoir violenté l'une de leurs collègues et fait porter le chapeau à un gardé à vue. Et puis, c'est pas moi, à deux jours du match contre l'Angleterre, Fabien Galthié se défend d'avoir propagé le Covid au sein du 15 de France. La météo, elle sera perturbée demain sur tout le pays, au programme de nombreuses giboulées, parfois orageuses, de la neige sur les sommets et des températures stationnaires, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris dépasse la barre des 6000 points, plus 0,72% à la clôture ce soir. Quatrième séance de hausse consécutive. On en parlera avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview éco dans 20 minutes. Aircall recrute 300 personnes cette année. C'est une start-up spécialisée dans les services de téléphonie aux entreprises. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Jonathan Angeloff, le cofondateur d'Aircall. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pas de tour de vis supplémentaire, ni de nouveaux départements sous surveillance. Olivier Véran a juste donné la météo de l'épidémie. Une situation sanitaire que le ministre de la Santé qualifie de tendue et inquiétante, particulièrement dans trois régions, les Hauts-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et surtout l'Île-de-France.
La situation épidémique et sanitaire en Île-de-France nous préoccupe tout particulièrement. Toutes les 12 minutes, un francilien, nuit et jour, est admis en lit de réanimation en Île-de-France. Si le rythme continue à être le même, nous dépasserons les 1500 patients Covid en réanimation en Île-de-France à la fin du mois de mars, ce qui correspond à un seuil critique pour les hôpitaux de cette région. Nous faisons tout pour faire face. J'ai demandé au directeur général de l'Agence régionale de santé de mobiliser l'ensemble des établissements de santé afin d'augmenter les capacités de réanimation, ce qui implique des déprogrammations importantes et demain massives des soins chirurgicaux programmés. Et d'ores et déjà, nous préparons des transferts importants de patients vers les autres régions. Quand je dis important, c'est qu'on parle là de dizaines, voire de centaines de patients qui pourraient être évacués de l'Île-de-France vers d'autres hôpitaux, d'autres régions du territoire national.
Au-delà de la situation en Île-de-France, le ministre de la Santé s'est exprimé au sujet du vaccin AstraZeneca, sérum qui inquiète plusieurs pays du nord de l'Europe. Le Danemark, l'Islande et la Norvège l'ont suspendu par précaution en raison de cas de thrombose, de caillots sanguins chez certaines personnes vaccinées. Faut-il s'en inquiéter alors que ce vaccin est de plus en plus utilisé en France? La réponse est non pour Olivier Véran. Il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination avec AstraZeneca, a dit le ministre. Aucun lien n'a pour l'heure été établi entre ce vaccin et ses troubles de coagulation. C'est vrai, mais maintenant, il faut qu'on enquête, répond pour sa part Mathieu Molimard, professeur de pharmacologie au CHU de Bordeaux.
La problématique est de savoir si c'est une association ou s'il y a une causalité. Autrement dit, est-ce que c'est un pur hasard qui fait qu'on ait des thromboses qui surviennent chez des gens qui ont été vaccinés ou si c'est le vaccin qui est à l'origine de ces thromboses. Donc c'est tout le travail des pharmacovigilants qui va être de reprendre les dossiers, de reprendre les antécédents de ces patients, de voir les traitements qui sont associés pour chercher s'il y a d'autres causes possibles, quels sont les signes, quelle est la chronologie entre la vaccination et la survenue. Bref, il y a toute une démarche diagnostique qui doit être faite par les centres de pharmacovigilance. Et ensuite, on pourra avoir des conclusions. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. À ce jour, le rapport bénéfice-risque du traitement vaccin AstraZeneca est excellent. On évite des morts et on n'a pas d'effet indésirable notable. Dans les derniers rapports de pharmacovigilance, on n'a pas relevé en France de tels événements de thrombose.
Le professeur Mathieu Molimard du CHU de Bordeaux, joint pour Europe 1 par Victor Dolande. C'est aujourd'hui que l'Europe a donné son feu vert à un quatrième vaccin contre le Covid, celui du laboratoire américain Johnson & Johnson, qui sera diffusé en Europe sous le nom de Janssen. La haute autorité de santé devrait, dans les jours qui viennent, autoriser son utilisation en France. Et c'est une bonne nouvelle, Anne Le Gall, d'autant plus que ce vaccin est le seul, pour l'instant, à ne nécessiter qu'une seule injection.
Exactement. Ce vaccin est fabriqué à partir d'un virus humain inoffensif auquel on a ajouté des instructions génétiques pour éduquer l'organisme à lutter contre le SARS-CoV-2. Et avec une seule dose, son efficacité est de 85% contre les formes graves 28 jours après l'injection, de 66% contre les formes modérées. Et cela augmente encore dans les jours qui suivent. Ce vaccin serait aussi efficace contre les variants. Et ces bons résultats devraient donc permettre une vaccination deux fois plus rapide et à grande échelle, car ce vaccin est également facile à stocker. Il a l'avantage de se conserver pendant 3 mois dans un simple frigo. S'il est validé, ce vaccin de Johnson & Johnson devrait a priori cibler la même population que le vaccin d'AstraZeneca, les moins de 75 ans, pour une vaccination en ville, chez les pharmaciens ou les médecins. Pour la France, c'est la Haute Autorité de Santé qui précisera très rapidement ses conditions d'utilisation. Mais même si tous les feux sont au vert, on ne devrait pas pouvoir l'injecter malheureusement en France avant le mois d'avril, date prévue pour la première livraison d'1 million de doses pour commencer.
Précision signée Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. La France assouplit les conditions de voyage pour 7 pays hors de l'Union européenne, dont le Royaume-Uni. À partir de demain, il ne sera plus nécessaire de justifier d'un motif impérieux pour se rendre à Londres, en Australie ou encore au Japon. Décision prise, et cela peut paraître surprenant, en raison de la forte circulation du variant britannique en France. Il est devenu majoritaire comme dans de nombreux autres pays. Du coup, plus besoin de restreindre à ce point les voyages à l'étranger. Cela n'empêche pas les compagnies aériennes de s'organiser pour sécuriser leurs vols. Air France propose depuis aujourd'hui à ses clients d'expérimenter un pass sanitaire pour ses liaisons vers les Antilles, la Martinique ou la Guadeloupe. Un outil qui, à l'avenir, pourrait permettre de voyager plus facilement, Aurélien Fleureau.
Exactement. Cette application, qui s'appelle AOK Pass, pourrait avoir plusieurs usages. D'abord, celui qui est lancé aujourd'hui. Il va garantir la fiabilité du test PCR qui est demandé pour voyager. 10 jours avant le départ, la compagnie Air France, en l'occurrence, va vous proposer cette option. Il faut alors prendre rendez-vous dans un laboratoire partenaire. 2 grands réseaux ont été choisis, Serballiance et Biogroup. Si le test est négatif, eh bien vous obtenez un QR code. Cela va vous permettre d'embarquer et ce sera aussi une manière de fluidifier les contrôles pour chaque passager, explique Emmanuel Ferracci, en charge du projet pour Air France.
À l'embarquement de son vol, il aura une ligne dédiée qu'il sera prioritaire à l'embarquement. Il présentera son QR code à l'agent et ça lui dira instantanément si le test réalisé par le client est conforme aux exigences de la destination vers laquelle il se rend. Et donc l'objectif, c'est bien de préparer l'avenir et à terme, nous devrons aboutir à des solutions pour pouvoir assumer cette reprise du trafic. Ça va y participer.
La phase de test va durer 1 mois sur la base du volontariat. La compagnie Corsair va le proposer également dans quelques jours. À terme, ce type d'application pourrait intégrer l'attestation de déplacement ou une preuve de vaccination. Mais clairement, les débats autour d'un passeport vaccinal souhaité par des acteurs du secteur aérien sont encore loin d'être tranchés.
Merci Aurélien Fleureau.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
À la une également ce soir, cette annonce symbolique en vue des régionales. La gauche et les écologistes ont décidé de s'unir dans les Hauts-de-France. Europe Écologie Les Verts, France Insoumise, Parti Socialiste et Communiste entendent parler d'une même voix derrière l'eurodéputé écologiste Karima Delli. Avec une ambition, Lionel Gougelot jouait les troubles faits dans le duel annoncé entre Xavier Bertrand et le Rassemblement National.
Oui, et selon les termes d'un responsable socialiste à la manœuvre ces derniers jours, le but est bien de challenger le duel qui s'annonce entre Xavier Bertrand, le président sortant, et le Rassemblement National qui sera cette fois emmené par Sébastien Chenu. Alors si l'on observe les chiffres d'un sondage IFOP publié en novembre dernier pour Europe 1, l'addition des forces de gauche et de l'écologie unies dans cet accord représenterait 26% des intentions de vote, derrière le Rassemblement National à 29%, et Xavier Bertrand à 33%, La République En Marche est à 9%. Alors tout cela va sans doute évoluer, mais ce qui est sûr, c'est que derrière la candidature de l'actuelle députée européenne écologiste Karima Delli, la gauche espère un retour en force dans un de ses bastions perdus.
Il y a 6 ans, la gauche et les écologistes ont disparu de ce conseil régional. Il y a 6 ans, la gauche et les écologistes se sont retirés pour faire barrage à l'extrême droite. Et donc, nous avons eu une région aux mains de Xavier Bertrand. Nous ferons tout pour que l'histoire ne se répète pas. Nous allons faire naître un nouvel espoir. Nous allons faire reculer la droite et l'extrême droite. Et nous allons chercher la victoire pour être exemplaires pour toute la France.
En tout cas, voilà une nouvelle illustration que dans la région de Pierre Mauroy et de Martine Aubry, le Parti Socialiste n'est plus en mesure d'imposer sa ligne. D'ailleurs, l'un de ses chefs de file, le sénateur Patrick Kanner, se retire de la course régionale. Alors maintenant qu'on fit un élu, il va falloir faire avec. Une tête de liste complètement inconnue du grand public, mais au moins on a la dynamique de l'Union et du temps pour faire campagne.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Sur le front de l'emploi, une bonne nouvelle pour Rouen et son agglomération. Amazon a obtenu le feu vert pour installer une gigantesque plateforme logistique, un entrepôt XXL qui devrait générer au moins 1200 emplois sur la commune de Petit-Couronne, dont le taux de chômage avoisine les 17%. Dans le Morbihan, en revanche, on déchante. Renault annonce ce soir qu'il met en vente la fonderie de Bretagne, située à Caudan. L'usine emploie 350 salariés. Le constructeur estime qu'un repreneur serait plus à même de pérenniser les activités et les emplois du site. La garde à vue de Jean-Christophe Lagarde a été levée ce soir. Le président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis était entendu depuis 5 heures ce matin pour détention d'armes non déclarées. D'après nos informations, ce sont ses proches qui ont prévenu la police dans la nuit en expliquant que l'élu menaçait de se suicider. Jean-Christophe Lagarde ne fait pas l'objet de poursuites à ce stade, mais l'enquête préliminaire se poursuit concernant les armes à feu retrouvées à son domicile. Venons-en maintenant à cette affaire qui secoue le commissariat de Vanves en région parisienne. Deux gardiens de la paix ont été mis en examen pour avoir brutalisé l'une de leurs collègues. Ça s'est passé l'an dernier. Et non seulement ils ont commis des violences, mais en plus ils ont voulu faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre, Gladys Lafitte.
Oui, en fait, ces deux policiers décident de menotter leur jeune collègue et de la mettre dans une cellule du commissariat. C'est ce qui semblerait être une forme de bizutage qui a mal tourné donc puisqu'elle s'est brisée le poignet. Les médecins lui ont même prescrit plusieurs semaines d'interruption temporaire de travail. Sauf que les deux gardiens de la paix, pour se couvrir, ont rédigé un faux procès-verbal qui accuse l'un des gardés à vue qui se trouvait là ce jour-là d'avoir violenté la policière alors qu'il est évidemment innocent de ces faits. Il devait même être jugé pour ça, mais heureusement, le poteau rose a rapidement été découvert grâce au commissaire de Vanves, puisqu'il a pris des nouvelles de la jeune femme, elle lui a tout avoué et il a immédiatement prévenu sa hiérarchie. Et quelques jours plus tard, les deux policiers ont été suspendus, ils le sont toujours d'ailleurs. Alors au fur et à mesure de l'enquête menée par l'IGPN, la police des polices, d'autres faits de violence plus anciens commis par ces deux mêmes hommes ont été découverts, sur la même collègue et sur d'autres. Il apparaît qu'ils faisaient un peu la loi au commissariat, qu'ils exerçaient une forme de pression sur d'autres policiers et qu'ils avaient aussi brutalisé des personnes contrôlées.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. En Grande-Bretagne, le prince William réagit à son tour à l'interview choc de son frère Harry et de Meghan Markle. Cette dernière avait évoqué des conversations au sein de la famille royale sur la couleur de peau de leur futur bébé alors qu'elle était enceinte. La famille royale britannique n'est absolument pas raciste, dit le duc de Cambridge. On reste outre-Manche avec le choc samedi dans le tournoi des Six Nations, Angleterre-France. Le sélectionneur Fabien Galthié a dévoilé tout à l'heure la composition de son équipe et il est également revenu pour la première fois sur l'affaire qui agite le monde du rugby depuis plusieurs semaines, les contaminations massives au sein du 15 de France, Simon Rubin.
L'exercice a été d'ailleurs plus politique que sportif sur cette conférence de presse et Galthié a manié avec un certain brio les éléments de langage, l'idée... Pas de mea culpa et on va de l'avant. Alors on rappelle que le rapport remis au ministère écartait la responsabilité de Fabien Galthié dans l'éclosion de ce foyer épidémique. D'après les spécialistes de santé, la contamination est venue d'un joueur de l'équipe de France de rugby à 7 qui a partagé entraînement et repas avec le groupe. Et Fabien Galthié a donc assuré « Je n'ai rien à me reprocher ».
Tous nos agissements étaient dans le respect du protocole sanitaire. Ils le sont toujours. Le protocole sanitaire nous protège, mais le risque zéro n'existe pas. Pour le reste, je le répète, nous sommes très exposés, l'équipe de France est très exposée, très populaire. Et donc on peut comprendre en fait tout ce qu'il peut y avoir autour et accepter bien sûr, accepter et entendre les critiques. Elles sont positives depuis maintenant presque 2 ans, mais aussi les autres. Ça fait partie de, de notre mission, notre posture et de notre rôle.
On accepte les critiques, on comprend, mais on n'est pas responsable. Voilà pour le discours. Alors, l'enjeu maintenant, et on le sent bien en entendant Fabien Galthié, c'est de reprendre le contrôle. Après une période un peu folle, les managers Galthié et Ibanez doivent reprendre les commandes en vue de ce déplacement crucial en Angleterre.
Merci Simon Rubin. Et puis en cyclisme, Paris-Nice n'arrivera pas à Nice. Conséquence du confinement prolongé ce week-end sur le littoral des Alpes-Maritimes. Et des réunions sont en cours entre l'organisateur de la course et les services de l'État pour adapter le parcours. On termine avec la météo. Anissa Haddadi, le temps demain sera très humide.
Oui, les averses, Julien, sont présentes sur quasiment tout le pays demain matin. Personne ne sera épargné par ce temps très humide, vous le disiez. Alors sur les côtes de la Manche, nous avons toujours un vent d'ouest qui reste très présent demain, avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Dans la journée, des Pays de la Loire jusqu'à l'Île-de-France, en passant par le centre-Val de Loire, les Ardennes, le Grand Est, dans toutes ces régions, demain, nous aurons des giboulées assez importantes, parfois même orageuses. C'est là que les giboulées seront les plus fortes. Ailleurs, nous avons un ciel qui alterne entre nuages, éclaircies et averses. Mais vous l'avez compris, globalement, nous aurons de la pluie sur toutes les régions, sauf dans le sud, au bord de la Méditerranée, sur une petite partie, hein, sur la Provence et la Côte d'Azur, là le temps reste sec, mais du côté du Languedoc-Roussillon, on pourra aussi avoir quelques petites pluies. Demain, sur les Alpes, les Pyrénées et le Massif central, il neige, le retour des flocons, et à partir de 1000 mètres d'altitude. Alors les températures, elles sont stationnaires. On aura 2 à 10 degrés demain matin, 2 pour Clermont-Ferrand, 4 à Rouen et Limoges, 5 pour Paris, 6 à Bordeaux et 9 à Montpellier. Puis alors au meilleur de la journée, c'est assez stationnaire, ça correspond aux températures que nous avions aujourd'hui, avec 8 degrés pour Aurillac et Rodez, 10 à Lille, 11 à Metz et Brest, 12 degrés pour Paris, Toulouse et Rennes, 14 à Lyon, 16 à Marseille, 19 à Bastia, et la maximale est prévue pour Nice, sur la Côte d'Azur, vous aurez 20 degrés demain.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Et Aircall recrute 300 personnes cette année, c'est une start-up spécialisée dans les services de téléphonie aux entreprises. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes maintenant Jonathan Angloff, le cofondateur d'Aircall. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à tous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street monte ce soir et s'offre même de nouveaux records grâce au plan de relance du président américain Joe Biden.
Oui, les investisseurs saluent l'adoption définitive au Congrès du plan de relance de Joe Biden contre le Covid-19. Un plan massif qui devrait doper la croissance américaine. Nouveau record donc pour le Dow Jones.
1900 milliards de dollars, hein, c'est ça.
Exactement. Le Dow Jones donc gagne 0,58%, 32 485 points. Ça monte aussi pour le Nasdaq, plus 2,5%, 13 398 points. Le retour au calme se confirme pour les rendements obligataires. Ça fait grimper les technos. Apple bondit de 1,6%, plus 2% pour Amazon. Tesla, plus 4,8%. Facebook, plus 3,4%. Repli tout de même pour Oracle, après des résultats jugés décevants, moins 6,5%. Le pétrole profite toujours des espoirs d'une reprise économique solide. Le WTI gagne 2,5% à 66 dollars. Et puis côté devise, l'euro gagne 0,5%, 1,1987 $.
Un an après sa violente chute provoquée par la crise sanitaire, le CAC 40 retrouve ce soir la barre symbolique des 6000 points.
Oui, c'est une première depuis février 2020. Le CAC 40 termine à 6033 points, en hausse de 0,72%. Marché dopé par la BCE, sans surprise, la Banque Centrale Européenne n'a pas modifié ses taux. Elle conserve une politique très accommodante qui rassure les investisseurs. La vedette du jour, c'est EDF, en hausse de 11%. Les très longues et très compliquées négociations entre Paris et Bruxelles autour de la réforme du nucléaire français et de la réorganisation de l'énergéticien progressent. Elles pourraient aboutir avant la fin mars.
Eurazeo aussi grimpe après des résultats financiers très appréciés.
Oui, Eurazeo bondit de plus de 8%. La société d'investissement classement n'avait plus connu une telle progression depuis plus de 4 mois. Du rouge, en revanche, pour JC Decaux, qui a fait état d'une perte nette en 2020 pour la première fois de son histoire. Le groupe de communication extérieure a été lourdement affecté par la crise. Ailleurs en Europe, les marchés ont clôturé en hausse. Hausse de 0,2% pour Londres et pour Francfort. Plus 0,8% pour Milan et Madrid et aussi pour Amsterdam. Et à Paris, le CAC 40 termine à 6033 points en hausse de 0,7%.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Jonathan Angeloff.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur d'Aircall. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une start-up qui fonctionne vraiment très très bien et qui est spécialisée dans les services de téléphonie aux entreprises. Si nous avons voulu, là ce soir, être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que vous annoncez une très très bonne nouvelle, surtout dans cette période. Vous embauchez, et puis pas quelques dizaines, quasiment 300 personnes. Quel profil vous cherchez chez Aircall?
Alors, on recherche tout type de profil. Pour moitié, on veut 150 environ profils techniques, donc tout ce qui est développeur, product manager. Et le reste sera des profils commerciaux, account management, RH, etc., etc. Donc vraiment un peu tous les types de profils qu'on peut trouver dans une start-up qui nous permettent de continuer notre expansion en France et à l'international.
Voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous proposez aussi bien des postes à Paris, à New York, à Sydney et à Madrid. Et même une bonne partie à Madrid, puisque je crois que 30% des postes que vous proposez, ce sera à Madrid. Et vous dites, c'est ce que j'ai lu en tout cas dans une interview de vous ce matin, qu'il y a un gros problème de formation en France que l'on n'a pas formé aux bonnes filières. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, vous vous développez fortement à Madrid. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi dans la formation en France? Qu'est-ce qui vous manque chez nous?
Ce qui nous manque, c'est un peu évident, c'est qu'aujourd'hui, on a depuis des années, les formations en France n'ont pas vraiment évolué. On est encore sur les mêmes formations un petit peu dans les années 70-80, où on forme tout type d'ingénieurs, mais finalement très peu d'ingénieurs logiciels, donc des développeurs, comme on les appelle vulgairement. Et je trouve ça triste que la France, qui est quand même un pays reconnu dans le monde entier pour ses formations et pour son éducation qui est de très bonne qualité, à l'étranger, moi pour avoir fait mes études un petit peu à l'étranger, la France est connue pour ça, mais que malheureusement, sur tout ce qui est ingénierie et donc technique, on ne forme pas du tout à ces métiers-là.
Et là, c'est vraiment pour ça que vous vous développez fortement à Madrid. C'est parce que vous n'avez pas les compétences.
On n'arrive pas à les trouver. Comme je disais, on doit recruter 300 personnes cette année. 150 seront des profils techniques. Mmh. Être capable aujourd'hui à Paris, en 2021, on est au mois de mars, donc il nous reste 9 mois sur l'année, être capable de recruter 150 personnes à Paris sur des profils de ce type, c'est globalement mission impossible dans l'état actuel du marché.
C'est vrai que c'est fou hein, au moment où on parle par ailleurs de crise. Alors ce qui est un autre défi pour vous, c'est d'intégrer ces talents en télétravail. C'est un gros défi quand on est une start-up pour créer l'esprit d'entreprise.
Certes, on a embauché, on a quand même embauché près de 200 personnes sur l'année 2020, mais on s'est dit, on va attendre 2021, créer vraiment un socle pour être justement capable d'embaucher à très grande échelle en 2021. Et donc pour ça, on a mis en place des process RH très serrés et très scalables, comme on dit.
Duplicables, on va dire, dans un bon français.
Duplicables, voilà, dans un bon français. Un chiffre d'affaires en ultra-croissance, toujours. Donc c'était important pour nous, évidemment, de prouver également à nos investisseurs et à nous-mêmes qu'on était capable d'accélérer très fortement et évidemment des fonctionnalités sur le produit qu'on voulait développer avant de se dire « Ok, maintenant on va y aller à fond et on va recruter ».
Voilà, vous avez attendu d'être encore plus puissant, que ça fonctionne mieux pour pouvoir continuer d'embaucher, mais il n'en reste pas moins que ces gens vont être en télétravail. C'est un défi de réussir à intégrer et à créer cet esprit d'équipe.
C'est un défi. Ça fait depuis déjà début 2020 on a pris ce défi puisque on a 3 bureaux comme vous le dites. La plupart des bureaux sont fermés où on a 10% des gens qui vont dans les bureaux de Paris de temps en temps pour des cas exceptionnels. Mais on a déjà relevé ce défi et on est prêt à continuer à le relever en espérant évidemment que les choses s'améliorent avec le vaccin et qu'on soit capable de tous revenir au bureau comme à la bonne vieille époque.
Si ça va si bien chez vous, hein, parce que je le disais tout à l'heure en introduction, vous proposez des services de téléphonie aux entreprises, mais des services en ligne qui leur permettent notamment de faire des économies et de faire plus avec leurs serveurs vocaux notamment. Et cette crise vous a aidé puisque vous dites qu'on a gagné 5 ans dans la numérisation des sites.
C'est bien ça. En fait, on voit bien la différence du type d'entreprise même que AirCall va attirer. Donc, on est une solution de téléphonie pour les entreprises qui s'intègre à tous les outils métiers de l'entreprise, donc notamment pour les services clients. On va améliorer les services clients, mais aussi pour les services commerciaux. Et donc, ce qu'on voyait, c'est qu'à l'origine, c'était beaucoup des entreprises de la tech qui s'intéressaient à AirCall, qui venaient, des entreprises un petit peu, on va dire, de l'internet, qui sont un petit peu récentes dans leur business model. Et depuis la crise, finalement, on voit tout type d'entreprises qui nous rejoignent, des PME classiques, des ETI qui ont 20, 30, 40 ans, mais qui ont besoin de se digitaliser, qui ont besoin de digitaliser leurs process, qui ont besoin d'offrir à leurs collaborateurs la capacité de travailler de chez eux. Et donc, finalement, cette crise, et j'ai dit 5 ans, mais on peut même, dans certains cas, on voit 10 ans en avance, et on n'aurait pas imaginé certaines entreprises pouvoir bouger si vite. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est des DSI,
des directeurs informatiques, qui effectivement, entreprises disent que tout ça, ça mute, et y compris, c'est vrai, dans des PME, on n'aurait jamais pu imaginer que ça aille si vite. Et du coup, ça vous amène à votre rêve, peut-être encore plus rapidement que prévu, parce que votre rêve, c'est quoi ? C'est de vous introduire au Nasdaq. Le Nasdaq, c'est quoi ? C'est la bourse des entreprises technologiques, la bourse américaine qui bat en ce moment record sur record. Et je crois que vous avez même transféré votre siège aux États-Unis pour cela. Ça vous fait pas rêver, le CAC 40 à Paris ? Vous, c'est obligatoirement le Nasdaq à New York ?
Bah, écoutez, très tôt, on s'est dit que pour réussir dans le logiciel, notamment dans la téléphonie d'entreprise, avec cette vision qu'on a internationale, vu que 85% de notre chiffre d'affaires se fait à l'étranger, on se disait qu'il faut qu'on réussisse aux États-Unis. Et oui, on a transféré notre siège social aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas dans le Next 40. On s'est fait virer, malheureusement. Mais en effet, on pense que les États-Unis sont un marché qui est capable de nous valoriser. Enfin, le Nasdaq est capable de mieux nous valoriser que la France. Dans le CAC 40, c'est pas trop adapté au secteur technologique. Et donc, en effet, notre rêve, à mes associés et moi, et même de toute entreprise, c'est de réussir à être une des entreprises françaises à s'introduire au Nasdaq dans les années à venir.
Eh bien, ce sera l'occasion de revenir sur Europe 1 pour cela. Jonathan Angeloff, le cofondateur d'AirCall, société spécialisée dans les services de téléphonie aux entreprises. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Et vous nous parlerez prêt à porter avec le PDG de Zadig et Voltaire.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. L'épargne, clé de la relance, c'est le titre de La Croix qui s'accompagne d'une question. Consommer, investir, transmettre, taxer, comment inciter les Français à vider leur bas de laine constitué pendant la crise pour relancer l'activité ? Vaste question qui, avant toute réponse, impose un constat. La pandémie a accru les inégalités de patrimoine entre Français. Ceux aux revenus modestes n'ont pas épargné ou très peu pendant les confinements. À l'inverse, des foyers plus fortunés. Voilà pourquoi le défi du gouvernement, c'est de faire en sorte que ce surplus de capitaux ne reste pas enfermé dans les comptes bancaires, mais permettre de financer l'intérêt général, c'est-à-dire une reprise durable et équitable, écrit Guillaume Goubert. Favoriser la transmission du patrimoine entre générations par des exonérations de droits de mutation. Sur le papier, cela semble gagnant-gagnant. C'est d'ailleurs l'une des pistes très sérieusement envisagées par l'exécutif. Mais encore faut-il avoir du patrimoine à transmettre. Cela ne fait que déplacer les inégalités sociales d'une génération à l'autre, note l'éditorialiste de La Croix, qui, on l'a compris, est plus favorable à une taxation des plus riches. Libération se penche pour sa part sur les violences entre bandes. Comment sortir de l'engrenage ? Ce n'est pas une question, mais une affirmation, car le quotidien cite un exemple, une réussite, celle de deux cités du Val-de-Marne, où les jeunes s'affrontaient pendant des années. Et depuis, les choses se sont pacifiées grâce à un travail de proximité avec l'aide d'acteurs associatifs et sociaux, le tout relayé par les élus locaux et les habitants eux-mêmes, écrit Paul Quignot. Non, la violence entre bandes rivales n'est pas une fatalité, à condition de se donner du temps et de renoncer à la facilité de réponse exclusivement sécuritaire, conclut l'éditorialiste de Libé. On termine avec les échos qui s'intéressent à la vente de M6. Elle suscite de multiples convoitises, titre le quotidien économique. D'après les échos, 4 acteurs ont d'ores et déjà déposé des offres. Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré, TF1 possédé par Bouygues, Xavier Niel, le patron de Free, et enfin l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, l'un des actionnaires du journal Le Monde.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ma foi, quand je suis assis dans ce fauteuil, tout va bien.
3921 pour vous appeler et témoigner dans la Libre Antenne et partager cette bonne humeur avec vous. Libre Antenne qui débute donc dès maintenant.
Merci Julien, à tout à l'heure, on se retrouve à 23h30 pour votre flash.